En ce temps-là, notre Seigneur dit aux pharisiens, « Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes très chers frères, le deuxième dimanche après Pâques et nous enseigne sur une des qualités de notre Seigneur comme bon pasteur. C'est pour cela qu'on l'appelle le dimanche du bon pasteur. Et nous, ce dimanche nous enseigne aussi sur la qualité de l'Église comme troupeau du bon pasteur. Alors, nous avons beaucoup de choses à voir aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Et nous rentrons directement dans le sujet. Dans le premier point, nous évoquerons, une fois de plus, dans la continuité de ce que nous avons déjà dit depuis Pâques, nous évoquerons la doctrine de la rédemption qui est le cœur de notre religion. Et nous verrons aussi ce qu'elle nous enseigne sur le péché et sur la condition de pécheur. Dans un deuxième point, nous verrons comment le Christ nous sauve. Nous dirons certaines choses, nous rappellerons certaines vérités, et nous parlerons aussi de l'effet de la rédemption appliqué par le Saint-Baptême. Et nous terminerons dans un troisième point en disant comment, dans le Christ, Dieu devient notre Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
Dans l'épître de Saint-Pierre que nous venons d'entendre, mes très chers frères, Saint-Pierre nous dit ceci, à peu près au milieu de l'épître. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Et ce sont ces plaies qui nous ont guéris, qui vous ont guéris. Il a porté lui-même nos péchés dans son corps, sur la croix. Ce sera, mes très chers frères, jusqu'à la fin des temps, ce sera toujours un objet de scandale perpétuel pour l'orgueil humain que cette affirmation de la religion qui sauve. Il a porté, donc le Christ, a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix. Que le Fils de Dieu ait dû expier dans son corps les péchés des hommes nous apprend un certain nombre de choses, et si nous n'apprenons pas ce que l'Église nous enseigne en commentant ces paroles de l'Écriture sainte, nous resterons perpétuellement dans le point de vue de l'homme charnel. Et l'homme charnel, nous savons que cela se manifeste dans le mauvais chrétien, le chrétien mondain dont nous parlions la dernière fois, le chrétien qui ne se préoccupe pas de sa religion, le chrétien qui ne pratique pas sa religion, mais nous le voyons aussi d'une façon peut-être plus stable encore, parce que ce chrétien-là peut se convertir, et si j'ose dire, il va se convertir, mais nous le voyons d'une façon aussi plus stable dans, par exemple, chez les musulmans, par exemple, ou, alors c'est pas pour critiquer gratuitement leur religion, mais c'est pour dire que le point de vue des musulmans lorsqu'ils questionnent, et plutôt attaquent, disons, de façon apologétique, les chrétiens sur la religion chrétienne, est un point de vue qui est totalement opaque, non seulement, bien sûr, à la très sainte Trinité, mais surtout, si j'ose dire, au scandale de la mort rédemptrice du Christ, du Fils éternel de Dieu, du Messie. Ils disent que le Christ est le Messie, mais ils n'en tirent aucune conséquence. C'est une rémanence de quelque chose que Mahomet n'a pas comprise apparemment. Mais ils disent que le Christ est le Messie, mais ils n'ont pas la moindre idée et ils sont choqués par le fait que nous disions qu'il est mort pour nos péchés. Leur Dieu pardonne, il pardonne parce qu'il est miséricordieux, mais il pardonne sans aucune considération pour ce que c'est que le péché. Donc, d'une certaine manière, et sans vouloir calomnier, mais enfin quand même, il se trouve que la notion de péché chez eux est extrêmement faible, en tout cas par rapport à la nôtre. Alors, évidemment, ils ont leur notion de péché, je ne dis pas le contraire, mais elle est extrêmement faible. Qu'est-ce que le péché ? C'est une transgression de la loi de Dieu, c'est effectivement ce que dit Saint Jean, le péché c'est la transgression de la loi, mais c'est une transgression de la loi de Dieu que Dieu pardonne, car il sait que l'homme est faible. Il pardonne tant que, toujours dans la perspective islamique, tant que l'homme, donc le musulman, ne commet pas le péché par excellence qui coupe de toute miséricorde divine, qui est l'associationnisme, c'est-à-dire le fait d'associer quelqu'un à Dieu. Or, nous savons très bien que le christianisme n'associe pas quelqu'un à Dieu comme si c'était comme un homme, comme si on essayait de tisser des liens entre un homme et un Dieu artificiellement. Le Fils éternel de Dieu s'est fait homme pour nous les hommes et a pris chair de la très sainte Vierge Marie et nous a racheté. Ce qui nous enseigne, mes très chers frères, abandonnons maintenant les païens, occupons-nous de notre religion, ce qui nous enseigne sur une chose, un point très important, c'est sur la notion de péché et de ce qu'est le péché. Le péché, ce n'est pas simplement la transgression de la loi, même si c'est la transgression de la loi. Ce n'est pas simplement. Le péché est quelque chose qui déplaît tellement à Dieu que le pécheur ne peut en aucun cas être pardonné dans la mesure où il a péché. Il y a donc, laissez-moi terminer et vous comprendrez, il y a donc dans cette parole de Saint Pierre, ou plus précisément du Saint-Esprit, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, il y a quelque chose qui nous enseigne tout d'abord l'immensité du péché. Le péché est un acte de désobéissance vis-à-vis de Dieu, quelque infime qu'il puisse être, le péché offense infiniment la bonté, la sagesse et la justice de Dieu. Que cet acte soit rendu possible par le fait que la créature n'est pas Dieu, et donc elle est capable de désobéir à Dieu, puisqu'elle n'est pas Dieu, Dieu ne peut pas se désobéir à lui-même, ne la justifie en rien, ni ne l'excuse. Car la loi de Dieu est suffisamment, et dans le paradis terrestre, la loi de Dieu était suffisante pour permettre à l'homme de demeurer dans la justice et de garder la vie de la justice. Donc voyez-vous, mes très chers frères, le péché est une chose immense. La valeur du péché se mesure à l'offensé et non à l'offenseur. Et même, d'une certaine manière, on peut dire que c'est un concept qui est accessible même à l'homme mondain, dans la mesure où, si par exemple, vous giflez le roi, ou mettons, bon, il n'y a plus de roi aujourd'hui, mais vous giflez même, par exemple, le président de la République, c'est déjà arrivé ces dernières années, eh bien, vous serez jugé différemment que si vous giflez quelqu'un dans la rue parce que vous vous êtes disputé ou simplement parce que vous l'agressez. Vous giflez quelqu'un dans la rue, vous allez avoir rappel à l'ordre ou un petit peu de problème avec la police, évidemment, si on porte plainte. Mais ça n'ira, je pense, à moins de me tromper, mais ça n'ira pas plus loin. Vous giflez un officiel, un préfet, un maire, le président de la République, c'est tout à fait différent. On pourrait dire, mais c'est différent, c'est la même gifle. Oui, mais ce n'est pas la même personne. Vous avez outragé, selon les lois de la République, vous avez outragé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Voyez-vous, mes très chers frères. Donc, si c'est vrai, même pour les mécréants, a fortiori pour Dieu, le péché, la valeur du péché, se mesure à l'offensé et non à l'offenseur. Voilà pour l'immensité du péché. Le péché est aussi immense que Dieu. Ensuite, il y a un autre aspect que nous enseigne Saint-Pierre, c'est qu'il y a un aspect d'irréversibilité des effets du péché. Tout acte, nous disent les physiciens, tout acte, ou les métaphysiciens aussi, tout acte entraîne une réaction. Toute action entraîne une réaction. Je pousse une pierre, cette pierre dévale la pente. Vous voyez, je pousse une pierre et elle est sur un terrain plat, elle revient vers moi. Pourquoi ? Mais parce que, voilà, bon. Vous comprenez, ce sont les lois de la physique. Donc, toute action entraîne réaction. Le péché est une cause. Et quel est l'effet de cette cause ? C'est la damnation. La damnation de la cause qui a causé cet effet. Quand bien même l'homme regretterait son péché, il n'est plus maître de ses conséquences. Quand on lance une pierre en bas d'une pente, une pente caillouteuse, d'une montagne par exemple, on peut dire « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je regrette d'avoir fait ça. » Oui, d'accord, mais la pierre vous a acquitté votre main, elle roule maintenant, elle dévale, elle entraîne avec elle plein d'autres pierres, et vous avez tout un pan de montagne qui s'effondre. Vous avez beau regretter amèrement ce que vous avez fait, vous n'êtes plus maître de ce que vous avez fait. Le péché a un aspect irréversible. Il est immense comme Dieu, il est irréversible une fois qu'il a été accompli. Une fois que l'homme a péché, il n'est plus maître des conséquences de son péché. Le péché atteint Dieu. Il atteint Dieu, premièrement, en tant que désobéissance à un maître très sage, Et donc le péché est une folie. Le péché atteint Dieu en tant que désobéissance à un maître très bon, et donc le péché est une malice, un acte de malice. Le péché atteint Dieu en tant que maître très saint, le péché est donc impureté. Le péché atteint Dieu en tant que maître très juste, et il est donc injustice. Donc vous voyez, mes très chers frères, tout ceci sont des raisons suffisantes pour entraîner la rupture avec Dieu, source de vie. C'est pour cela que, dans le paradis terrestre, notre Seigneur avait dit à notre premier Père, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. » Il n'a pas dit « Le jour où tu en mangeras, tu auras des problèmes. » Le jour où tu en mangeras, il n'a même pas dit tu plongeras le monde dans la vanité, et c'est saint Paul qui nous l'enseigne, tu seras banni du paradis terrestre. Tout ceci, d'une certaine manière, n'est pas le plus important, aussi horrible que cela soit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. C'est-à-dire que déchu, l'homme n'est pas simplement naturel pour l'homme. Il n'est pas simplement naturel comme une bête, comme si l'homme était un macaque que Dieu avait pris, enfin certains le disent, mais que Dieu avait pris et dans lequel il avait insufflé quelque chose et qu'il avait en quelque sorte bardé de toutes sortes de dons qui le surélevaient au-dessus de sa nature. Bon, l'homme a fait un peu n'importe quoi, il est tombé, mais qu'est-ce qu'il fait? Comme disent certains théologiens, il n'est jamais retombé que dans son état naturel, dans l'état naturel dans lequel Dieu aurait pu le créer. Erreur! Erreur! Toute l'écriture n'est qu'un cri, n'est qu'une protestation par avance contre une telle ingratitude, une telle folie. Déchu, l'homme n'est pas simplement naturel. Pour lui, être naturel, c'est être dans le désordre à tous les niveaux. C'est être mort. L'homme naît mort, spirituellement, ça s'entend, et c'est pour ça qu'il doit être pas moins que ressuscité par le baptême. Quand on dit « sans le baptême, on ne peut pas être sauvé », ce qui est fort juste. Mais c'est comme si on disait « sans la résurrection dans le Christ, l'homme qui est mort ne pourra jamais vivre ». C'est ça que ça veut dire. L'homme naturel, c'est l'homme mort, c'est l'homme déchu. Donc vous voyez, mes très chers frères, le péché n'est sensible, le péché n'est irréversible, est irréversible à cause de la justice divine qui est fonction de l'éternité de Dieu. La justice divine ne prend pas fin. La justice divine, ce n'est pas comme un magistrat terrible qui, partant à la retraite, laisse place à un magistrat laxiste, et du coup, le tribunal, qui était une chose terrible avant, devient une sorte de sinécure pour les bandits. Non, la justice de Dieu est fonction de l'éternité divine. Alors vous allez dire, oui, mais on sait très bien que Dieu nous pardonne. Attendez, bien sûr que nous y venons, bien sûr que vous le savez, tout ça, mes très chers frères, je n'invente pas une nouvelle religion désespérante. Mais pour bien comprendre ce que le Christ a fait par rapport à nous, pécheurs, nous devons comprendre que le péché est immense, qu'il est irréversible. Vous allez dire, s'il est irréversible, alors nous ne pouvons pas être sauvés, donc attendez, n'allez pas trop vite. Le péché est irréversible, c'est-à-dire que l'homme ne peut absolument rien, plus rien, une fois qu'il a péché. Maintenant, il est vrai, nous sommes pardonnés. Mais comment ? Nous sommes pardonnés parce que l'homme n'est pas Dieu, il peut être racheté, mais moyennant que Dieu lui-même châtie sur lui-même le péché librement assumé par lui-même, c'est-à-dire librement assumé par Dieu lui-même. Si Dieu... Voyez-vous pourquoi les musulmans ne comprennent pas ce que nous disons et ne peuvent pas comprendre? Ce sont des malheureux, ils ne peuvent pas comprendre. Si Dieu était la monade aristotélicienne ou islamique, c'est ce Dieu infiniment parfait, cet esprit parfait, etc., seul, etc., partiellement la définition de Dieu. C'est le Dieu des philosophes, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si Dieu était la monade aristotélicienne ou islamique, il ne pourrait être rédempteur. Alors vous allez dire, mais le Dieu musulman pardonne. Mais le Dieu qui pardonne n'est pas le Dieu rédempteur. Il pardonne parce qu'il sait que l'homme est faible. Bien sûr que l'homme est faible, mais dans l'état de justice, il était fort. Le Dieu musulman, qui n'est pas le vrai Dieu, pardonne, mais il pardonne comme le Dieu d'Aristote pardonnerait pardonnerait s'il avait le moindre intérêt pour l'homme. Le Dieu d'Aristote, Aristote n'a jamais même imaginé que Dieu pourrait pardonner, parce que Dieu se moque éperdument de l'homme. Dieu a donné le premier mouvement au monde, le monde vit sa vie, comme on dit un peu vulgairement, et Dieu, si j'ose dire, la sienne. De son côté, c'est le Dieu d'Aristote, c'est le Dieu d'Épicure, c'est le Dieu des philosophes, c'est-à-dire c'est un être qui est par défaut, qui correspond par défaut à la définition que nous pouvons en donner, c'est-à-dire infiniment puissant, infiniment grand, infiniment parfait, etc., subsistant dans lui-même, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un Dieu qui n'a rien à faire avec l'homme. Quand on met une couche de vernis religieux sur ce Dieu aristotélicien, on a le Dieu islamique qui est miséricordieux. Alors, nous respectons tout à fait ce nom de miséricordieux parce qu'il vient de notre religion. Dieu est miséricordieux, Dieu merci. Mais il est miséricordieux comme le serait le Dieu d'Aristote. Encore une fois, il est miséricordieux parce que comme la créature n'est pas Dieu, évidemment qu'on lui pardonne. On ne va pas exiger d'elle qu'elle soit comme nous. Voyez-vous, mes très chers frères, tel n'est pas le Dieu de la révélation chrétienne. Dieu n'est pas ce Dieu-là. Alors vous voyez, et les Juifs, alors, disons juste un mot des Juifs. Le Dieu des Juifs n'est pas du tout le Dieu islamique, c'est notre Dieu. Maintenant, il se trouve que les Juifs, qui disent que Dieu pardonne, etc., disent constamment, parce qu'ils prient les psaumes comme nous, ils disent que Dieu est rédempteur, que lui-même rachètera les péchés d'Israël. Et il faut savoir que, quelque confiants qu'ils soient en Dieu, qu'il leur pardonne le jour du nouvel an, etc., du premier de l'année, qui est censé, disons, être le grand jour où ils font leur confession intérieure à Dieu et qu'ils demandent son pardon, mais ils attendent toujours que la grande expiation ait lieu. Car ils ne reconnaissent pas le Messie qui est venu, puisqu'ils l'ont livré à Pilate et qu'ils l'ont fait mettre à la mort. Les Juifs, quelque hostiles qu'ils soient à la religion chrétienne, n'ont pas du tout la version islamique de la miséricorde divine. Ils savent très bien que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le temple a été détruit, et depuis 2000 ans au moins, ils attendent que Dieu expie leurs péchés. C'est pour cela que les apôtres disent « c'est pour expier les péchés commis sous l'ancienne alliance que le Christ est venu ». Donc c'est exactement la même doctrine, sauf qu'ils ont raté le coche jusqu'à ce que Dieu les éclaire. Donc voyez-vous, mes très chers frères, Dieu ne pardonne pas gratuitement. Dieu ne pardonne pas à la légère. Il pardonne gratuitement, mais comme nous le disions il n'y a pas si longtemps, et ce n'est pas que nous qui le disions bien sûr, c'est si le pardon est gratuit pour nous, il est extrêmement coûteux pour Dieu. Le Dieu qui nous pardonne, c'est le Dieu qui est notre rédempteur. C'est le Dieu qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par le fait qu'il est Trinité, un seul Dieu, trois personnes, qu'il est miséricordieux. Dieu ne peut pas être dit miséricordieux, Dieu ne peut pas être miséricordieux s'il n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà quelques éléments que nous enseigne l'Écriture à propos, et l'Église, à propos du fait que le Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix. Passons à notre deuxième point. Le bon pasteur, dit notre Seigneur aux pharisiens, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Notez bien que notre Seigneur ne dit pas ça à ses apôtres, il le dit aux pharisiens, car c'est aux Juifs que s'adresse en premier lieu et par excellence la promesse de l'expiation des péchés. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le précieux sang de notre Seigneur est répandu pour beaucoup, comme nous le disons, comme il a dit lui-même, il a enseigné à ses prêtres de le dire lors de la consécration, promultis. Le précieux sang de notre Seigneur est répandu pour beaucoup, c'est-à-dire des myriades et des myriades d'êtres, d'enfants d'Adam qui ont été sauvés, qui seront sauvés. Maintenant, tous ceux que son Père lui a donné, il les amène efficacement à lui-même. Il les réconcilie avec Dieu, il réconcilie Dieu avec eux. Le Christ n'est pas le commerçant qui propose sa camelote en attendant que des gens mordent à l'hameçon. Il n'est pas le commerçant qui propose, il est le conquérant qui s'empare. Écoutez bien, mes très chers frères, le Christ n'est pas le commerçant qui propose, il est le conquérant qui s'empare. Même si, encore une fois, bien sûr, les voies de la Providence sont très douces la plupart du temps, même si parfois elles sont roboratives, mais elles sont douces. Néanmoins, quand Dieu convertit quelqu'un, il s'empare d'une âme, ce n'est pas cette âme qui tend la main vers l'étal du bon Dieu et qui prend un petit peu de pardon, un petit peu de ceci, un peu cela, un peu de fierté chrétienne, etc., puis qui s'en fait un sac et qui l'emporte, on ne sait trop où. Il n'est pas le commerçant qui propose, il est le conquérant qui s'empare. C'est la violence impérieuse, invincible et irrésistible de Dieu qui est notre salut. Cette violence que Dieu nous fait, cette violence, cette douce violence, pour dire comme M. Bossuet, cette violence, cette douce violence, que, mais cette violence quand même que Dieu nous fait, est un effet, si j'ose dire, bénéfique, et l'effet bénéfique de la violence que Dieu, le Père, a faite ou a laissé faire à Dieu le Fils, a voulu que subisse Dieu le Fils, pour racheter ceux qui devaient être rachetés gratuitement. Pour racheter ceux qui devaient être vivifiés par Dieu le Saint-Esprit. C'est la violence impérieuse, invincible et irrésistible de Dieu qui est notre salut. En expiant sur la croix la peine de nos péchés, mes très chers frères, le Christ nous arrache à l'esclavage de Satan et, si j'ose dire pire, à la tyrannie de la volonté propre qui est la volonté mauvaise, la mauvaise volonté. L'effet de la rédemption, efficacement appliqué, est le retour à la justice. C'est pour cela que saint Pierre continue en disant « Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice, et ce sont ses plaies qui vous ont guéri. » Afin qu'étant morts au péché, par le baptême, nous sommes, dit saint Paul, ensevelis avec le Christ, et nous renaissons avec lui, nous mourons à notre première condition, c'est notre condition dite naturelle par l'Écriture, c'est-à-dire notre condition de déchéance, échappant ainsi réellement à la sentence de condamnation. Celui qui est mort, même selon la loi des hommes, quand un criminel qui a été repéré par la police, qui a été arrêté par la police, qui va être jugé, il meurt, il échappe à sa condamnation. On ne le juge pas la plupart du temps, en tout cas selon les lois actuelles, on ne le juge pas de façon posthume. Cela peut arriver, mais c'est dans d'autres circonstances, en régime traditionnel. On ne le juge pas de façon posthume, le cas s'arrête, et même si tout le monde sait que c'est une ordure et qu'il aurait dû être condamné à mort ou à la prison ou à vie, etc., eh bien, il n'y a pas de procès parce qu'il s'arrête. D'une certaine manière, quelque chose de cela se retrouve dans notre situation de baptisé. Nous échappons parce que nous mourons réellement à la sentence qui nous condamnait. Nous mourons réellement, mais en même temps, nous continuons à vivre, parce que nous ne sommes pas encore morts physiquement. Donc, nous mourons réellement, et nous ressuscitons dans le Christ une nouvelle création, une nouvelle créature. Évidemment, ça fait longtemps qu'on a largué les mahométans, etc., qui s'imaginent que les choses sont très simples et que Dieu pardonne, parce que c'est son métier de pardonner, comme disait Oscar Wilde. Non, non, mes très chers frères. Ce n'est que par le baptême, qui est la mort et la résurrection dans le Christ, que nous échappons à notre ancienne condition, donc à tout ce qui était attaché à notre ancienne condition, c'est-à-dire à notre condamnation. Nous sommes, par le baptême, Dieu a été, par le sacrifice du calvaire, Dieu a été réconcilié avec nous, nous sommes devenus ses fils dans son Fils. Nous sommes unis avec lui pour être intégrés dans la justice divine, dans la sainteté divine, d'injuste et de corrompu que nous étions en Adam. Nous étions morts, afin que, étant morts au péché, nous vivions pour la justice. La désobéissance native, spontanée, nécessaire, invincible, volontaire, accomplie avec délectation et acquiescement de notre cœur, qui est la caractéristique de l'enfant d'Adam, devient capable, cette désobéissance, capable d'être contrée par la charité, qui est l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour filial, l'amour de reconnaissance. Nous aimons Dieu dans son Fils et par son Fils, mes très chers frères, à cause de ce que son Fils a fait pour nous. Le Fils de Dieu est notre Rédempteur. Si Dieu n'était pas un et trois, nous ne pourrions pas être sauvés. Si Dieu le Père n'avait pas envoyé Dieu le Fils mourir, s'incarner et mourir pour nous et ressusciter le troisième jour en expiation des péchés, nous ne pourrions pas être sauvés. Si Dieu n'avait pas trouvé, d'une façon qui nous sera toujours incompréhensible à nous-mêmes, un motif de, en lui-même, et pas en nous, mais en lui-même, de nous racheter, le rachat, la rédemption n'aurait jamais eu lieu. Le Fils de Dieu est notre Rédempteur et nous ne pouvons jamais assez méditer cette vérité. Si des fois vous sentez de la sécheresse dans votre cœur et puis vous ne savez pas sur quoi méditer, et puis tout vous semble comment dire inintéressant, etc. Dites simplement Seigneur Dieu, vous êtes Seigneur Jésus-Christ, vous êtes mon Rédempteur. Vous êtes mon Rédempteur. Qu'est-ce que le Rédempteur ? C'est celui qui a racheté les brebis. Agnus redemit oves. Nous avons chanté ça à Pâques. L'agneau a racheté les brebis. Aujourd'hui, l'Église nous enseigne que cet agneau est notre bon pasteur. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Méditons, mes très chers frères, cette vérité que le Christ est notre Rédempteur, qu'il a donné sa vie pour la nôtre. Il a porté en lui-même nos péchés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Dans l'offertoire, c'est notre troisième point, nous disons à ceci à Dieu, nous dirons cela tout à l'heure à Dieu. Ô Dieu, mon Dieu, je veille et je vous cherche dès l'aurore, alléluia. En votre nom, je lèverai mes mains, alléluia. Cela fait penser, c'est une parole des psaumes, bien sûr, psaume 62, qui fait penser, bien sûr, à cette parole de notre Seigneur, mon Dieu et votre Dieu. Mon Père et votre Père. Dieu est notre Dieu par le Christ. Alors vous allez dire, oui, mais il y a certaines religions, une certaine religion que vous avez mentionnée et qui dit que Dieu, dont les croyants disent que Dieu est leur Dieu, mais ils nient tout à fait qu'il est un fils. Et même, c'est un de leurs dogmes négatifs, que Dieu n'a pas de fils. Si Dieu n'a pas de fils, alors nous ne sommes pas sauvés. Si Dieu n'a pas de fils, alors nous sommes toujours dans nos péchés. Si le Fils n'est pas mort et ressuscité pour nous, alors nous sommes toujours dans nos péchés. C'est l'Écriture qui nous l'enseigne. Dieu est notre Dieu par le Christ. C'est une grande témérité que d'oser dire que Dieu, le Créateur, infiniment offensé par un péché immense et irréversible par notre premier Père, surtout quand on prétend descendre de notre premier Père, c'est peut-être une vérité, une des seules vérités qu'il y a dans l'islam, c'est qu'ils reconnaissent que le premier homme, c'est Adam. Eh bien, quand on prétend être les fidèles de ce Dieu infiniment offensé par un péché immense et irréversible, en réalité, on se moque de Dieu. Mais comme l'expérience fait qu'on peut se moquer de Dieu longtemps, le premier effet, c'est que l'on devient mauvais. Je ne vais pas faire maintenant des raccourcis faciles, parce que tout est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer, mais voyez-vous, mes très chers frères, le chrétien, déjà, lorsqu'il lâche la main du Christ, lorsqu'il détourne les yeux de sur le Christ, commence déjà à redevenir mauvais. Alors, a fortiori, celui qui n'est pas baptisé, a fortiori, celui qui n'est pas chrétien, a fortiori, celui qui prétend que le Créateur est bon et qu'il pardonne, il pardonne à la créature, moyennant qu'elle dise « le Créateur est un », ce qui est vrai, et c'est à peu près tout. Mes très chers frères, il y a là un endurcissement. L'homme devient mauvais. D'autant plus si ce Créateur vous autorise à peu près tout, sauf ce qui est vraiment franchement péché, ici-bas, ce qui est à peu près délimité par les lois de la raison. Quand votre Créateur vous autorise à peu près tout et qu'il vous dit « ne rendez pas illicite ce que Dieu a rendu licite », mes très chers frères, alors, et qu'à peu près tout est licite dans la mesure où ça se fait dans un cadre, mes très chers frères, comment s'étonner que l'homme déjà mauvais devienne encore plus mauvais ? Selon un certain ordre, c'est vrai. Il n'est pas mauvais comme le mécréant qui ne croit en rien. Il est mauvais comme quelqu'un qui a la naïveté de s'imaginer que de confesser, comme un vulgaire démon, la réalité du Créateur va faire de lui un chouchou de Dieu. Dieu est notre Dieu, mais il n'est notre Dieu que par le Christ. Sinon, nous sommes ses créatures. Sous un certain rapport, il est notre Dieu dans le sens où il est notre Créateur, mais il est un Dieu vengeur terrible, un feu dévorant, une justice infinie, une sainteté infinie, qui s'avère colère, feu pour l'homme dès lors qu'il transgresse le commandement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. Dieu est notre Dieu uniquement par le Christ, vrai Dieu qui s'est fait homme pour nous, afin que nous devenions fils de Dieu dans le Fils. Vous comprenez que cette religion qui peut sembler si rationnelle, etc., qui l'est jusqu'à un certain point, lorsqu'elle s'entoure des précautions pour dire que Dieu n'a pas de fils et que le seul péché sérieux que Dieu, mis à part l'idolâtrie, mais ce qui est à peu près la même chose, mais que Dieu ne pardonnera pas, c'est l'associationnisme, c'est-à-dire le fait de devenir fils dans le Fils, Alors, on comprend que c'est véritablement une religion satanique, une religion plus précisément, pour parler comme saint Jean, antéchristique, qui est faite pour séparer définitivement l'homme de Dieu et faire de lui le gibier de l'enfer. Deus, Dieu, Deus meus, mon Dieu, je veille et je vous cherche dès l'aurore. En votre nom, j'élèverai mes mains. Ad te, deluce vigilo. Ad te, vers vous. L'orientation de notre être tout entier vers Dieu est notre seul recours contre la terrible justice de Dieu. C'est par le côté percé par la lance que nous avons admiré il n'y a pas si longtemps. C'est par le côté percé par la lance que nous entrons, nous réfugier contre la colère de Dieu qui est sa justice et sa sainteté, comme nous l'avons dit. Voyez-vous, mes très chers frères, si le Christ est Dieu, le Verbe, incarné pour nous dans le but de nous parler de l'amour de Dieu, nous sommes toujours dans nos péchés. Si sa carrière s'est terminée à cause de la méchanceté des hommes qui ne voulaient pas entendre parler de Dieu et qu'il est mort mais que Dieu l'a récupéré, pourquoi ne pas dire carrément que Dieu lui a épargné la honte de la croix et qu'il l'a substitué avec un corps éthérique façon un peu docétiste et qu'il l'a ramené au ciel directement sachant que les hommes étaient trop mauvais et qu'ils devaient attendre le prochain prophète, etc. Pourquoi ? Après tout, les néo-catholiques ne sont pas très éloignés des musulmans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils prient avec eux. Vous voyez, mes très chers frères, alors je sais très bien que tous ne le disent pas, mais enfin, en même temps, leurs frères le disent et personne ne les a condamnés, et d'une certaine manière, c'est pas parce que dans un asile on est moins fou que son voisin qu'on n'est pas forcément fou et digne d'être dans un asile. Donc voyez-vous, mes très chers frères, faisons très attention. Tous ceux qui sont en dehors du Christ, c'est-à-dire en dehors de l'Église, du corps mystique du Christ, sont dans les conditions de la damnation. Alors, tant qu'ils sont en état de voie, bien sûr, ils peuvent changer d'état, bien sûr. Mais pour cela, il faut que Dieu leur accorde sa grâce. C'est une situation, le fait d'être en dehors de l'Église, d'être en dehors du Christ, c'est une situation, quand on y pense bien, objectivement épouvantable. Situation épouvantable de l'homme plongé en lui-même, digne de la colère de Dieu. Et comme dit l'Écriture, la colère de Dieu vient sur les fils de colère. Pour nous, mes très chers frères, puisque nous sommes ici, ça veut dire que d'une certaine manière, nous avons déjà reçu la grâce. Prions qu'elle soit accompagnée de la grâce de la persévérance, du don de la persévérance, évidemment. Mais pour nous, reconnaissant d'avoir reçu cette grâce, prions pour que nous ne nous en rendions jamais indignes. Et c'est pour cela que l'Église nous enseigne à prier, spécialement dans la secrète que le prêtre prononcera tout à l'heure. Nous disons ceci, elle est assez longue et un peu complexe, nous soulignerons qu'une seule chose. Faites que, toujours sanctifié par vous, Seigneur, l'oblation sacrée qui nous apporte le salut, opérant efficacement en nous ce que mystiquement elle représente et réalise. Mystiquement parlant, c'est-à-dire dans l'absoluité, dans l'objectivité du sacrement, c'est la transsubstantiation. Le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ. Maintenant, pour que le corps et le sang du Christ, réellement présents sur l'autel, deviennent pour nous source de vie, il faut qu'une deuxième grâce, c'est que cette oblation sacrée opère efficacement en nous ce qu'elle opère objectivement en elle-même, par elle-même. Voyez-vous, mes très chers frères, la transsubstantiation est la vérité. Maintenant, il faut que cette transsubstantiation soit pour nous la puissance de Dieu qui nous applique la rédemption du Christ pour le salut de nos âmes. Alors, nous qui sommes si chargés de péché, je commence par parler moi-même, bien sûr, prions, ô notre bon pasteur, ne nous livrez pas à notre mauvaise volonté à cause de nos infidélités. Soyez fidèles lorsque nous sommes infidèles. C'est une promesse de l'Écriture sainte. Il est fidèle lorsque nous sommes infidèles. Ça n'a rien à voir avec la miséricorde d'un Dieu qui pardonne à la façon aristotélicienne ou islamique. Nous sommes infidèles si souvent. Soyez fidèles, Seigneur. Bon pasteur, ne nous livrez pas à notre mauvaise volonté à cause de nos infidélités. Nous étions comme des brebis errantes, mais maintenant, nous sommes revenus au pasteur et à l'évêque de nos âmes. Seigneur, conservez nos âmes jusque dans l'éternité et pardonnez-nous nos péchés pour l'amour de votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.